Suivez Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.
Priorité Santé. Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous dans Priorité Santé. On a tous vécu un jour une histoire d'amour qui finit mal, très mal. Après une rupture, pourquoi certains vont éprouver de la colère, d'autres de la tristesse, de la culpabilité et de l'angoisse? À quel moment faut-il consulter pour éviter une vraie dépression? Comment faire le deuil d'un amour passé? Et surtout, comment rebondir après, malgré le fantôme de son ex et la peur d'un nouvel échec sentimental? Souvent, on le vit comme ça. On en cause bien sûr avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour docteur Christian Zagzik.
Bonjour Laurence.
Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre et psychothérapeute à Paris, auteur du livre « Cœur brisé et relations amoureuses tourmentées ». C'est aux éditions Odile Jacob. Dans votre livre, on va en parler, hein, vous apportez des conseils, des stratégies concrètes. Car pour vous, les émotions douloureuses, bah ouais, ça s'improvise et ça s'imprivoise surtout.
Oui, il faut apprendre dans ce genre de situation difficile, puisque tout le monde a vécu une rupture amoureuse, apprendre à gérer ses propres émotions et les représentations qu'on a de la situation et surtout les jugements qu'on a sur soi-même. C'est très important.
Et ça exige une discipline.
Discipline.
Voilà, vous nous donnerez un petit peu les maîtres mots, des conseils qui n'ont rien à voir avec les love coach des réseaux, comme vous les appelez. Vous les aimez pas trop, les love coach?
Bah, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent un peu spécialistes. Bon, nous, dans notre cœur de métier, on voit des gens qui sont vraiment dans la souffrance, qui ont des conséquences de leur chagrin d'amour en termes de dépression, de troubles anxieux.
On en parlera également avec Hortense Akadago-Agribi. D'ici une vingtaine de minutes, elle est psychologue clinicienne à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et puis en fin d'émission, un tout autre sujet, nous parlerons de la campagne de vaccination contre le chikungunya à La Réunion et à Mayotte face à la flambée épidémique de la maladie. On sera avec Anne-Claure Crémieux, présidente de la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé. Bienvenue à vous.
Priorité Santé sur RFI.
Alors Christian Zagzik, souvent on dit qu'une rupture amoureuse, d'un point de vue psychique, c'est le même processus qu'un état de deuil. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que c'est ce qui se passe dans notre cerveau en fait?
Ben, c'est assez proche puisqu'il s'agit d'une perte, sauf que dans le deuil, quand on perd un proche, on ne reverra plus le proche, on ne peut pas avoir l'espoir de le retrouver. Mais on peut retrouver des mécanismes qui sont identiques, comme s'isoler, être triste, ruminer, y penser tout le temps, voire même parfois dans les rêves, quand on perd un proche, parfois il y a des rêves qui viennent un peu corriger le trauma, dans le sens où on voit le défunt qui revient, comme si c'était pas vrai. Et bien, dans les pertes amoureuses aussi, parfois il y a le retour de l'être aimé dans les rêves,
parfois même
des années plus tard.
Vous parlez de trauma là, vous avez lâché le mot, hein, oui.
Oui, c'est traumatique de perdre un proche qu'on ne reverra jamais. Et parfois, une rupture amoureuse peut être traumatique. Quand le cerveau n'arrive pas à intégrer la perte, il peut aussi créer des sortes de rêves où l'être aimé revient.
Et à quel moment on peut parler vraiment de dépression? Cela, vous venez de dire, isolement, ressassement. Tristesse, mélancolie.
Je pense qu'on peut parler de dépression quand ça dure, quand on perd l'élan vital, quand ça commence à faire tache d'huile dans tous les domaines, qu'on n'a plus envie de partir en vacances, on n'a plus envie de voir les gens, on n'a plus envie de sortir. On a des ruminations anxieuses et puis on n'a plus de projet, on n'a pas de perspective. Là, on peut dire que ça prend une dimension de dépression.
Ouais. Et en même temps, vous dites et vous l'écrivez, il faut prendre aussi le temps du temps, comme dans un deuil. Hein, il faut prendre le temps de la guérison, de la convalescence.
Oui, il faut accepter que, comme dans un deuil, il faut plusieurs mois, voire un an ou deux, parfois, pour oublier quelqu'un. Mais alors, ce qui est assez intéressant dans cette histoire de tableau dépressif, c'est quand on voit des patients qui sont en rupture amoureuse, qui ont vraiment un tableau de dépression, le médicament c'est l'être aimé, puisqu'il m'est arrivé de voir des gens qui ont vraiment un gros tableau de dépression, et je les revois une semaine après, ils vont super bien, ils sont guéris comme s'ils avaient un traitement, mais tout simplement parce que l'être aimé a rappelé.
Ah.
Donc c'est l'effet immédiat.
C'est ça, sauf que ça peut retomber aussi sec après.
Exactement.
Dans votre livre, à chaque fois il y a des commandements, les 10 commandements du cœur brisé, les 10 commandements du nouvel amour. Dans les 10 commandements du cœur brisé, parce que là on commence par là, vous le dites, hein, il faut prendre le temps du temps, dans l'urgence tu n'agiras pas, vous adressez à votre lecteur triste en les tutoyant, c'est ce que vous appelez la règle des 48 heures. Qu'est-ce qui se passe pendant 48 heures si on est largué ?
Il faut toujours être redescendu au niveau émotionnel pour être un peu plus rationnel, même si nous sommes dans les histoires de cœur. Il faut quand même parfois être rationnel quand on va agir. Parce que j'ai vu des situations s'aggraver parce que les gens agissent dans l'urgence.
Genre...
Je veux joindre absolument la personne que j'aime parce qu'elle a rompu au téléphone, elle a laissé un message. Je vais en bas de son travail, j'appelle à son travail. Alors qu'en fait, si on regarde bien, il n'y a pas d'urgence, ça ne se joue pas dans les 48 heures en fait. Au contraire, ça va donner une estime de soi renforcée et donner l'image qu'on est quelqu'un de raisonné, qui prend son temps. Si on veut absolument rentrer dans le boulot, appeler la famille pour joindre la personne qu'on n'arrive plus à joindre, eh bien, ça peut aggraver la situation.
Ou scruter ses réseaux pour voir si elle est toujours là.
Exactement.
Ou elle est toujours là. Je vous propose d'écouter, tiens, la première note vocale, un témoignage que nous a laissé un auditeur.
Bonjour, Priorité Santé, je suis Alpha. J'ai 30 ans, j'habite Douala. Le sujet du jour m'intéresse car j'ai été victime de deux déceptions amoureuses qui m'ont véritablement marqué. L'une, c'était à la fac avec ma camarade d'envie qui se jouait de moi et me faisait croire qu'elle était amoureuse de moi, qu'elle avait des sentiments. Elle racontait à ses amis, par contre, qu'elle ne se rapprochait de moi que par rapport à ce que je pouvais lui apporter intellectuellement, vu que nous sommes un binôme pendant les exposés. Il me manipulait et profitait de moi. Cela m'a profondément bouleversé. Quelques années plus tard, j'ai dû retomber amoureux, entre guillemets, si je puis dire, d'une de mes apprenantes en classe de terminale. Au départ, cela me paraissait gênant, mais quand je lui ai fait part de mes sentiments, elle a été au début un peu impulsive, mais par après, lorsque j'ai voulu garder la distance, elle m'a fait comprendre qu'elle aussi ressentait des sentiments. On a donc dû tenter le coup, puisque après l'obtention de son bac, elle a été admise dans une faculté de médecine. J'ai dû me rendre compte qu'il y avait un petit peu de distance. J'ai voulu lui demander que j'étais devenu avanissant et qu'elle avait mieux à faire. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et j'ai donc dû mener une petite enquête. Je me suis rendu compte qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Et mes préoccupations sont les suivantes. Pourquoi certaines femmes ou filles ne sont pas sincères en amour? Ou pourquoi certaines s'amusent à manipuler leurs copains ou leurs conjoints? Merci.
Merci surtout à vous, Alpha de Douala au Cameroun. Alors, Christian Zagzi, que je voyais écouter ce témoignage. Bon, les femmes manipulatrices, la sincérité en amour, vaste sujet. Je ne vais pas vous demander si les femmes sont toutes des manipulatrices.
Je dirais, quand il dit pourquoi les femmes ne sont pas sincères, moi je dis souvent à mes patients et mes patientes, en fait, les hommes et les femmes, il n'y en a pas un pour rattraper les autres. C'est-à-dire qu'il y a les cas de figure des deux côtés. Il n'y a pas plus. Il y a peut-être une sensibilité différente, mais le fonctionnement, en gros, est pareil.
Mais d'ailleurs, vous ne faites pas allusion au genre hein, dans votre ouvrage.
Je ne fais pas allusion au genre, ça peut s'adresser à tous les genres, parce qu'en fait, le fonctionnement amoureux est quand même identique dans tous les genres, et quel que soit le type de relation. Là, j'ai envie de dire que c'est un peu les aléas des rencontres. Je veux dire, on a ses problématiques personnelles, mais après, les autres ont leur histoire, leurs problématiques, dont ils ont conscience ou pas. Donc, on ne peut pas tout contrôler, tout ce qui se passe. Et surtout, je dis souvent à mes patients, tout n'est pas lisible. Peut-être que si j'avais face à moi les deux personnes dont ils parlent, les deux femmes dont ils parlent, si je les questionnais, elles auraient peut-être du mal elles-mêmes à dire pourquoi elles ont pris ces décisions, pourquoi elles ont quitté la relation. Tout n'est pas toujours compréhensible, en fait. Tout n'est pas explicable. Et c'est surtout ce que je dis toujours à mes patients, c'est de ne pas partir sur des auto-attributions, c'est-à-dire toujours penser que ça vient de soi et finir par avoir des pensées négatives sur soi-même.
Ne pas culpabiliser en se disant qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai bien fait.
Voilà, il faut essayer de tirer des enseignements, mais pas partir dans des croyances négatives sur soi. Voilà, j'ai pas de chance, j'y arriverai pas, je répète toujours les mêmes choses. Non, il y a quand même un peu une dimension de loterie aussi quand on rencontre quelqu'un.
Oui.
Ça doit le faire, mais il y a aussi une dimension de chance qu'on peut pas nier.
Ça dit, la question de la trahison, de la confiance, ça revient souvent, honnêtement, chez nos auditeurs tristes. Il y a Irène au Nigeria qui nous avait écrit sur WhatsApp après une expérience amoureuse où on découvre un gros secret comme une autre vie maritale, l'infidélité ça revient aussi, comment peut-on faire confiance à un homme? La notion de confiance, la notion de sécurité, ça revient souvent.
Je pense qu'il... déjà, il ne faut pas généraliser, comme l'auditeur précédent, sur toutes les femmes. On ne peut pas non plus dire que tous les hommes... On ne peut pas croire tous les hommes. Il faut écouter un peu ces signaux intérieurs, parce que parfois, quand on parle aux gens qui sont dans ces situations, ils ont souvent pas voulu voir certains signaux, en fait.
Les signaux
en disant, voilà, c'est peut-être l'homme de ma vie, et il y a des choses qui vont pas, et en fait, on ne veut pas voir. C'est un peu ce que je dis dans mon livre sur l'idéalisation et la cristallisation, c'est-à-dire qu'on... On veut pas voir, en fait. On se dit, c'est la personne, on s'entend bien, on a les mêmes sujets de conversation, et on va pas vouloir voir, en fait, les signes.
Les signes avant-coureurs, voilà. Éventuellement d'une rupture. On a un appel au 33 84 22 75 75, et on prend la direction de la Guinée.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
C'est Fatoumata qui nous appelle de Conakry. Bonjour Fatoumata.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous avez 32 ans et depuis un an vous êtes célibataire, hein, après trois relations assez difficiles. Hein. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour résumer ?
Ouais, au fait, le plus souvent, au début, c'est tout est rose.
Oui.
Et tu te dis que c'est l'homme idéal.
Et ben voilà.
Qu'il est bien pour toi et tout. Après, à un moment, la personne commence à changer, ça devient la catastrophe. Et du coup, tu en es à culpabiliser, à te demander ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait.
Mmh.
Et voilà. Merci. Et du coup, moi, je me suis résignée à... et j'ai décidé de ne plus tomber amoureuse.
Ah, bah non. Bah non, vous êtes jeune, 32 ans.
Au fait, la souffrance, c'est énorme pour moi.
La souffrance, c'est-à-dire, vous ressentez quoi encore aujourd'hui, par exemple ?
Aujourd'hui, non, ça va.
Ça va mieux ?
Oui, ça va.
Oui, vous avez le sourire. Avant de donner la main à notre psychiatre, si vous voulez lui poser une question, mais pourquoi est-ce que vous avez remarqué ou pas, souvent on dit qu'il ne faut pas trop expliquer le pourquoi du comment ça n'a pas marché, mais en quoi ces trois histoires n'ont pas fonctionné? Est-ce que vous avez l'impression de vivre la même chose? En quoi c'est les mêmes engueulades
ça,
ou pas?
C'est ça, la même chose, oui. C'est comme ça. Au début, c'est l'homme parfait, il est idéal, il est attentionné et tout, mais après, ça devient autre chose. Personne change du tout au tout.
Et ça devenait comment? Ça devenait comment? Il se comportait comment avec vous?
Après, la personne n'est plus attentionnée, ne veut plus être à l'écoute. Même quand tu te plains, la personne te dit non, c'est difficile, tu te plains trop. Tu poses trop de questions et voilà.
Fatoumata, est-ce que vous avez une question à poser à notre psychiatre qui vous écoute là?
Oui,
pour donner des conseils.
Oui. Allez-y. En fait, j'aimerais juste savoir s'il y a des comportements qui poussent les autres à être toxiques ou qui attirent des personnes toxiques vers nous.
Ah, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'attirer toujours les mêmes personnes toxiques, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ah, alors, question de notre spécialiste.
Alors, bon, c'est vrai qu'en consultation, j'entends souvent des personnes qui disent « Oui, j'ai l'impression que j'attire les personnes foireuses, les gens toxiques. » Je ne pense pas qu'on attire vraiment, en fait. Je pense que la différence peut-être entre quelqu'un qui est vraiment bien ancré dans un fonctionnement émotionnel, on va dire adulte, avec une bonne régulation émotionnelle et une bonne perception des choses, va aussi rencontrer des personnes comme ça probablement. Mais elle va peut-être voir tout de suite les signes qui vont faire penser qu'il faut quitter la relation. Et elle ne va pas partir dans cette pensée magique dont je parle dans le livre.
La pensée magique.
La pensée magique qui est, c'est peut-être l'homme de ma vie, il est fantastique, il est idéal, hein, c'est ce qu'a dit Fatoumata. On a toujours tendance à penser ça, on aimerait le penser.
Encore le syndrome du prince charmant.
Voilà, donc il ne faut pas être évidemment trop méfiant, être un peu parano, mais il faut quand même rester vigilant, il faut rester un peu dans l'expérientiel, c'est-à-dire je vois comment ça se déroule, la relation, et j'essaye de ne pas trop tirer des plans sur la comète au départ, et de laisser le temps au temps et de voir comment ça va se passer. Mais la différence, c'est que peut-être une personne qui a un fonctionnement bien adulte va pouvoir sortir d'une relation quand elle va avoir des signes sans avoir peur d'être seule à nouveau, de ne plus rencontrer. C'est ça qui fait la différence, à mon avis.
Oui, mais en même temps, souvent, on se dit quand même qu'on attire souvent les mêmes types de personnes.
C'est ce qu'on dit.
Non, mais si, ça se vérifie quand même, des fois, concrètement.
Je sais pas. Ah, moi j'ai plutôt la vision que... Peut-être déjà il y a un facteur chance pour rencontrer quelqu'un qui va avec qui on va bien fonctionner. C'est quand même une alchimie très particulière. Après, je dis que la différence se joue dans le fait de donner suite à la relation d'après les premiers signes ou continuer. Je crois que c'est ça la grande différence. Mmh. Et peut-être que les gens qui ont des blessures de séparation dans l'enfance ou peut-être des ruptures précoces vont avoir plus de difficultés à voir les signes ou à quitter la relation quand c'est nécessaire.
Fatoumata, c'était un petit peu votre cas ou pas du tout, vous ? Est-ce que, je ne sais pas, il y a eu des ruptures du côté de vos parents, dans la famille ?
Moi ?
Oui.
J'ai pas... Non, mes parents, non. Non, il n'y a pas eu de rupture chez nous.
D'accord. Bon.
Les ruptures, ça peut être quelque chose de subtil. Hein. Ça peut être dans la période préverbale, ça peut être une mère qui est soucieuse, une mère qui fait un peu de dépression et qui va créer une distance avec l'enfant qui peut se sentir en insécurité. C'est ça qui peut se réactiver aussi à l'âge adulte. Hein.
Vous dites célibataire, quoi ? Vous avez peur de rencontrer quelqu'un d'autre, de vous lancer dans une nouvelle histoire ou pas, Fatoumata ? Bon, c'est peut-être un peu tôt hein, en même temps. Hein.
J'ai envie de... Je sais pas. J'ai envie de me concentrer, si au moins.
Bah oui, c'est bien aussi, se concentrer. Ouais.
Voilà.
C'est très très bien, ça. Il faut d'abord se construire, c'est ce que je dis dans mon livre, se construire, avoir des passions. Et après, quand on rencontre quelqu'un, il faut que ce soit du bonus. Il ne faut pas que ça vienne combler du vide.
Ne pas combler du vide pour le vide. Bah écoutez, prenez votre temps, Fatoumata. Hein.
Hein oui, oui.
Et puis vous êtes jeune. Hein. Belle journée du côté de Conatry. Dernière petite question avant d'écouter un peu de musique, Christian Zazic. De toute façon, dans votre livre, vous n'aimez pas le mot échec. Vous dites que l'échec sentimental, tout ça, ça n'existe pas. L'échec.
Bah non, même si on reste célibataire toute sa vie, c'est pas un échec. Mmh. Ça, c'est une vision. La plupart des patients, de toute façon, ramènent une dimension sociale. Mes amis me disent alors, tu vas rencontrer quelqu'un. Enfin,
oui,
c'est toujours par rapport, par rapport à soi, si on a une vie épanouie, qu'on fait beaucoup de choses, qu'on a des passions, on peut avoir une vie beaucoup plus gratifiante que de certaines personnes qui sont dans une vie de famille ou mariées. Mais l'important, c'est d'être en accord avec soi-même. Si on est avec quelqu'un, qu'on a trois enfants et que tous les soirs, le mari passe son temps sur le portable, la femme passe son temps à râler, puis on n'est pas heureux.
C'est un peu cliché, non ?
C'est un exemple. Ouais. Si on n'est pas heureux, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en accord avec eux-mêmes, en fait.
Ouais. Ce qui m'a étonné dans votre ouvrage, c'est que vous dites « De ta souffrance, tu ne parleras pas. » Venant d'un psy, je comprends pas très bien. Vous dites « Faites attention, ne parlez pas forcément à tous vos amis, votre famille et tout. »
Je pense que ça ne sert à rien. Avoir quelques points de repère, des soutiens, mais en général, là, c'est un peu sorti du contexte. Quand je dis ça, c'est au moment de la rupture, au moment du chagrin d'amour, en fait... On est souvent dans une démarche de vouloir être rassuré. On attend que l'autre nous dise « mais t'inquiète pas, elle va revenir, t'inquiète pas, il va revenir, il était fait pour toi ». C'est ça qu'on attend en fait. Et moi, en fait, le but de ce livre, c'est que les gens arrivent à se prendre en charge eux-mêmes, à devenir leur propre guide et ne pas attendre que les autres les rassurent, mais qu'ils apprennent à se rassurer eux-mêmes. Mmh. C'est ça en fait le but.
Et vous donnerez d'autres conseils à ce sujet. Comment rebondir, comme on dit, et tourner la page après une rupture amoureuse. On en parle après le chanteur américain Jalen Gonda, avec un titre de circonstance, « Anyone in Love » sur RFI. Le chanteur américain Jalen Gondar avec Anyone in Love sur RFI. Dans Priorité Santé, on parle justement des chagrins d'amour et des relations toxiques en couple. Comment éviter la dépression? Comment tourner la page après une rupture amoureuse? On en cause avec le docteur Christian Zagzik, psychiatre et psychothérapeute à Paris, auteur du livre Cœur brisé, relations amoureuses tourmentées aux éditions Odile Jacob. On a, docteur, un appel au 33 1 80 82 75 75. C'est Jonathan qui nous appelle de Lubumbashi en RDC. Bonjour Jonathan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors Jonathan, vous êtes marié, vous avez 36 ans, vous avez 3 enfants et pour préparer cette émission, vous nous avez confié que vous vous disputez un peu beaucoup souvent avec votre femme, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et alors pour quelle raison on se dispute à la maison?
Ok. Auparavant, c'était sa famille, il disait que je suis en train de la tromper. Oui, après, on fréquentait les mêmes mouvements, moi et elle. Et donc, il y avait des frictions dans les mouvements qu'on fréquentait. C'est un mouvement des jeunes à la paroisse. J'avais pris la décision d'abandonner ce mouvement-là et pour éviter les disputes à la maison. Mais les disputes faits qui continuaient.
Des rumeurs comme quoi vous la trompez. Mais du coup, vous avez pu en parler directement avec elle?
Oui, j'ai déjà parlé avec elle plusieurs fois. Mm-hmm. Donc, les histoires se répètent de temps en temps. Ça passait, je l'avais dit que non, je ne fais rien de mal. Et crois-moi, pour elle, pour me croire, c'est un peu difficile.
Ouais, c'est-à-dire qu'elle croit plus les rumeurs des autres que vous, alors?
Oui, les rumeurs qu'on les dise des choses à propos de moi, les choses qu'on les dise, et ce n'est pas ce que moi j'ai fait.
Mmh. Alors, quelle est la question que vous voulez poser à notre psychiatre, alors, Jonathan?
Voilà. La question que je voulais poser, je voulais savoir si vous pouvez m'aider. Et dans cette situation que j'ai besoin d'aide. Comment est-ce que je peux faire pour conquérir encore ma femme à nouveau? Pour qu'elle puisse éviter les disputes, là.
Alors, il n'y a pas forcément de coup de baguette magique. Et Christian Zagzik, comment vous pouvez...
Alors,
comment
bonjour, vous écoutez déjà? Bonjour Jonathan. En fait, ce qui serait intéressant de lui demander, c'est là, vous dites, elle doute de moi. Ça serait intéressant de faire un peu ce qu'on appelle la métacommunication. À chaque fois que vous rentrez dans une dispute, de lui dire, écoute, j'ai l'impression que les sujets de dispute sont toujours les mêmes. Est-ce que tu doutes de moi? Qu'est-ce qui te fait douter de moi, en fait? Ça serait important de lui poser la question. Parce que vous êtes marié, vous avez des enfants, et de lui demander depuis quand elle doute de vous? Parce que je suppose que si elle s'est mariée avec vous, c'est qu'elle ne doutait pas au départ.
Depuis quand elle doute de vous?
Oui, au départ, elle ne doutait pas.
Et depuis quand alors?
Donc on était errés, jusqu'à tel point que je l'avais dit que vu qu'on est marié, il faut qu'on commence à partir dans les mouvements que j'ai envie de fréquenter dans notre église ensemble.
Ah oui, fréquenter un mouvement catholique, hein, c'est ça?
Oui, mouvement catholique.
Oui. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que vous n'entendiez pas avec votre épouse, votre femme?
Bon, quand on était parti là-bas,
oui.
Parfois quand je parle avec le jeune, ou je parle avec d'autres filles, elles pensent que non, je suis en train peut-être de les tromper. Quand je suis rentré à la maison, je lui ai dit que je n'ai pas vu donc ton humeur là a changé quand tu es à la paroisse. Qu'est-ce que tu fais?
D'accord.
En fait, je pense que c'est votre épouse qui a la réponse. Il faudrait prendre le temps de discuter avec elle et lui demander qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle ne doute plus de vous, en fait.
Pour la rassurer.
Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle ait confiance?
Ah ouais.
Parce que là, manifestement, vous décrivez qu'elle ne se sent plus en sécurité dans la relation. Donc, il faudrait voir depuis quand et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'à nouveau, elle se sente en sécurité.
Ok.
Hein? Tout simplement. Vous nous tiendrez au courant. On verra si ça ira mieux, peut-être.
Sans problème.
Bon, bah, merci. Essayez. Exactement. Toujours libérer la parole. Merci.
Alors, j'ai un dernier conseil. Quand il y a trop de disputes, c'est bien... que si on arrive à tomber d'accord à un moment où on est plutôt dans un climat serein, d'établir un signal pour pas que les disputes
montent.
Voilà. Apparemment, j'ai des patients à qui je donne le signal pouce ou stop. Donc, des fois, ils s'amusent à faire pouce quand un des deux trouve que ça déborde. Et souvent, ça marche.
Ah, ben vous voyez, le coup de pouce, vous pouvez peut-être essayer, Jonathan.
Mais il faut tomber d'accord avant sur le signe.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que ce soit un signe commun à adopter. Voilà. Bah, petite idée, petite piste, Jonathan. Merci, belle journée du côté de Lubumbashi. Est-ce normal de souffrir en amour? Pourquoi vous punissez-vous en restant dans cette relation qui vous fait souffrir? Il paraît que c'est les premières questions que vous posez à vos patients quand vous les recevez, c'est ça, non?
Alors, j'utilise peut-être pas le terme de punissez-vous.
Hein. Non.
J'utilise plutôt le terme pourquoi vous vous imposez ça.
Ouais,
c'est pas exactement pareil.
Mmh. Alors, c'est quoi leur réponse?
Alors, ils ont souvent des grands yeux, parce que parfois, pendant une heure, ils me plaignent d'une relation qui est terrible. Et je leur dis, mais pourquoi vous vous l'imposez? Souvent, ils se sont pas posé la question, en fait.
Bah pourtant, ils en souffrent s'ils viennent vous voir.
Oui, mais ils ne se sont pas posé la question pourquoi ils s'imposent cette relation qui les fait souffrir.
Parce que l'amour doit faire souffrir, forcément.
Peut-être qu'il y a une certaine personne qui pense ça, mais en tout cas, non. C'est ce que je leur dis, non. Ça doit être, évidemment, il peut y avoir des moments difficiles, mais ça doit quand même être du positif. Mm. Si c'est tout le temps de la souffrance et de la plainte, il y a un moment, il faut remettre en question quand même la relation. Mais parfois, quitter une situation qui est difficile, où on souffre, semble plus difficile que de rester dans la relation. Donc, c'est pour ça que j'utilise dans mon livre la phrase utilisée « rester dans la ligne de moins de souffrance ». Si rester dans la relation dans laquelle on souffre, ça semble moins douloureux que de quitter la relation, eh bien, il faut rester dans la ligne de moins de souffrance.
Mmh. La peur de quitter, vous adressez aussi bien aux gens qui ont été quittés ou les gens qui quittent. C'est aussi peut-être aussi, on va en reparler tout à l'heure avec notre prochaine interlocutrice, mais en période de crise économique, il y a la peur aussi, certes, de l'abandon, de la perte, mais de l'appauvrissement, de se retrouver, assumer des charges.
C'est un facteur qui n'est pas négligeable. Il y a des gens, par exemple, qui, pour élever leurs enfants, ne travaillent plus, des femmes qui ne travaillent plus. Évidemment, si elles sont dans une relation compliquée, eh bien, le facteur financier est important. On ne peut pas le nier, ça. Il faut en tenir compte, il faut y réfléchir, et parfois, ça peut être un frein.
Dépendance affective et économique.
Voilà.
Aussi. On va voir ce qu'il en est du côté de la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Bonjour Hortense Akadago Agribi.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne et professeure titulaire à l'université Félix Wefet Boigny de Cocody à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors dites-nous, est-ce que chez vous, les difficultés amoureuses, c'est un motif fréquent de consultation? Est-ce qu'on ose vous voir, venir pour vous voir à ce sujet?
Oui, je l'entends. J'entends la musique.
Oui, vous entendez la musique. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Hortense Akadago Akribi?
Tout à fait.
Ok. Je vous demandais, les difficultés amoureuses, c'est un motif fréquent de consultation chez vous?
Non, c'est une pièce calme avec... Non, c'est tout à fait calme. C'est bon.
Ah, c'est tout à fait calme. J'ai l'impression... Oui, on y a un petit bug. Hein. Je pense qu'elle ne s'adresse pas tout à fait à nous. On va la reprendre, vous me direz tout à l'heure dans le casque. On va continuer avec vous, Christian Zazig. Je ne sais pas si on a éventuellement notre auditrice Jacqueline qui est déjà là en ligne ou pas. Vous me faites signe. Tourner la page, ça c'est une grande question. Se relancer dans un autre amour, comment dépasser la peur d'un nouvel échec, même si vous dites que l'échec, ça n'existe pas. Là encore, il y a des commandements du prochain amour. Comment on tourne la page? Passer le temps, du temps du deuil, en fait. Et d'ailleurs, est-ce que c'est bien cette expression, comment tourner la page?
Je dirais que c'est pas vraiment tourner la page, c'est intégrer cette histoire amoureuse dans notre vie affective et amoureuse qu'on aura tout au long de la vie. Donc l'intégrer en termes d'expérience, mais qu'elle soit pas une expérience traumatique et qu'on puisse en retirer des choses positives. On peut par exemple d'un ancien amour garder le goût pour tel chanteur, telle chanteuse.
On jette pas tout à la poubelle.
Voilà, on intègre des éléments de cette relation, on en tire du positif. Et peut-être on peut aussi en tirer, bon, j'aime pas le terme de leçon, mais en tirer...
Ouais, tirer les leçons, ces échecs.
Des enseignements, peut-être de, attention, là, t'avais peut-être un peu exagéré, il faudrait faire attention dans ta prochaine relation.
C'est
ou
ça.
Être plus vigilant sur tel point.
Vigilance. De toute façon, c'est toujours ça, hein, ce que vous dites, il faut rester maître aussi un petit peu de ses propres émotions. On a retrouvé Hortense Aka Dago Akribi. Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, ben on vous entend bien, là, on vous entend mieux. Alors, je vous présentais tout à l'heure. Vous êtes psychologue clinicienne et professeure titulaire à l'université Félix Wéfette-Boigny de Cocody à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, dites-moi, est-ce que c'est un motif fréquent de consultation, les difficultés amoureuses? Est-ce qu'on vient vous voir pour ça?
Oui, bien sûr, c'est une question qui est universelle, la question de l'amour et la question, effectivement, des difficultés dans les relations amoureuses. Et donc, il y a beaucoup de demandes de consultation, je dirais aussi bien des hommes que des femmes. Et ça dépend du moment, ça dépend de la personnalité, ça dépend du contexte. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte et qui sont repris à partir de l'écoute active déjà de ce qui se passe, du motif. Et ce qu'il faut souligner également, c'est qu'il y a parfois des demandes, mais qui ne sont pas spécifiques à la, aux relations amoureuses qui sont délétères, mais qui vont apparaître à partir d'autres motifs qui semblent un peu détachés, mais qui montrent bien la relation avec les conséquences de ces relations amoureuses délétères.
C'est-à-dire que si je vous suis bien, il y a peut-être des gens qui viennent vous voir pour des questions quoi, de souffrance au boulot ou autre, ou de stress, et c'est en discutant avec eux que vous allez voir qu'il y a un problème sentimental, c'est ça?
C'est exactement ça,
ouais.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on note qu'il y a une difficulté au niveau de l'équilibre,
oui.
Aussi bien équilibre physique, psychique, qu'équilibre social, et lorsqu'on remonte, à la suite des différents entretiens, lorsqu'on remonte, effectivement, on touche du doigt un problème de perte, de deuil peut-être pas fait, ou de deuil qui est en train de poser problème, avec parfois même des symptômes très apparents, mais qui n'avaient pas été mis en relation directement par le patient ou par la patiente.
Est-ce qu'il y a une libération de la parole aussi chez les femmes et chez les patientes aussi? Est-ce qu'on ose plus en parler, bah voilà, soit d'une relation toxique, soit un sentiment de domination, soit est-ce que ça revient ou pas?
Oui, oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une évolution avec un peu tout ce qu'on va dire autour de la mondialisation qui permet aux femmes aussi de prendre la parole. Écoutez, nous sommes dans le mois de la lutte des droits des femmes et il y a toute une sensibilisation aussi qui permet aux femmes de se prendre en charge et de pouvoir exprimer. Mais où l'exprimer et comment le faire? Ce n'est pas toujours évident.
Oui, forcément.
Parce que, ces relations amoureuses montrent quelque part qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour pouvoir en parler, mettre des mots là-dessus et surtout être entendu. Mais la parole n'est pas toujours entendue si parfois elle est dite.
Oui, forcément. Restez avec nous, là, on a une auditrice qui nous appelle, c'est Jacqueline du côté de Kigali au Rwanda. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Caroline.
Alors moi c'est Laurence, Caroline est en congé mais elle revient
Laurence,
bientôt.
Bonjour, bonjour le psychologue et bonjour à tous ceux qui m'écoutent en ce moment.
Bon, en tout cas je trouve que vous avez une très belle voix, une très bonne voix Jacqueline, et pourtant bon, vous avez eu aussi vous aussi des problèmes sentimentaux, hein, vous nous avez raconté, vous avez 52 ans, vous avez été en couple pendant 3 ans jusqu'en 2023, depuis vous avez été vous êtes séparés, d'ailleurs ça s'est mal terminé. Comment ça s'est terminé pour nous expliquer un petit peu rapidement cette histoire d'amour, Jacqueline?
Je sortais avec quelqu'un. C'était la première fois que je me suis mise dans une relation vraiment durable. Bon, j'espérais que ça durera. Il a commencé à me cacher, à sortir avec une autre femme. Ah. Et c'était un couple vraiment qui était ami à nous. Il venait souvent chez nous. C'était un commissionnaire qui nous avait aidé à trouver notre maison.
Oui.
Et après, il m'a dit qu'il voulait être seul. Il m'a fait déménager. Bon, comme moi, je connais la mentalité des Blancs, il était français. Je dis peut-être, il a décidé d'être seul, il faut que je lui laisse. Il m'a dit qu'on restera amis. Et il m'a fait déménager tout juste à côté de chez lui. Et je lui ai dit pourquoi tu ne peux pas me laisser aller plus loin parce que tu ne veux pas de moi. Il me dit, non, je ne veux pas que tu ailles non plus loin de moi. Et après, quelques temps après, j'ai entendu qu'il sortait déjà avec la femme et que la femme était déjà dans sa maison, dans notre maison où on était.
Ah oui, d'accord.
Ça m'a beaucoup bouleversée. Et comme il était très jaloux de moi, et il m'avait, j'avais quitté tout le monde pour lui. Je n'avais pas de famille, je n'avais pas des amis.
Ouais, vous êtes.
Ce que je vais devenir, quoi. J'étais déçue et anéantie.
Je comprends, vous avez été un peu isolée aussi. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Je sais que vous nous avez dit, hein, Jacqueline, que vous avez connu la dépression, hein, perte d'appétit, des pensées plutôt morbides, consommation d'alcool aussi. Je crois savoir que ça va mieux aujourd'hui. Mais comme il nous reste très, très peu de temps, quelles questions vous voulez poser à nos deux psys qui vous écoutent là?
Oui, je voulais poser la question au psychologue. Est-ce que bon, après, je m'étais isolée. Était-ce la dépression, était-ce le traumatisme, ou bien c'était juste une déception normale que je n'avais pas pu supporter? C'était ça bien ma question.
Alors, question, réponse de Christian Zagzicki.
C'est pas une dépression normale, réactionnelle à un chagrin d'amour. Parce que là, on voit, par exemple, quand je me suis lancé dans l'alcool, vous disiez... c'est quand on en arrive là, c'est qu'on n'arrive plus à réguler ses émotions. Donc là, c'est important d'être pris en charge, effectivement. Et ce n'est pas rare, effectivement, que moi, j'ai des premières consultations dont la cause de la dépression est une rupture amoureuse ou une séparation qui se passe mal et qui vont activer une vulnérabilité chez certains patients. Et donc, c'est important d'être pris en charge à ce moment-là, le chagrin d'amour ou la rupture. Et là, le sentiment de trahison, c'est terrible, est une cause de consultation.
Ne pas négliger les symptômes et la douleur, c'est ce que vous pensez aussi, Hortense Akadago Akribi, par rapport à l'histoire de Jacqueline?
Oui, tout à fait, parce que là, c'est vraiment... tous les symptômes qui sont très marquants dans ce cas de situation. Et le fait déjà même de la faire isoler, d'empêcher qu'elle puisse être en relation avec la famille, c'est aussi un élément qui est très important. Donc ce sont des retours à revoir totalement et qui permettent justement de pouvoir passer cette situation. Mais il faut effectivement être accompagné.
Voilà, Jacqueline, si on a pu vous rassurer, si vous avez en tout cas les moyens ou la possibilité d'aller consulter quelqu'un, ça peut vous permettre de vous sentir mieux par la suite. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, parce que c'est pas forcément évident d'en parler. Merci beaucoup aussi Hortense Akadago Akribi, et belle journée du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci à vous pour vos lumières. Christian Zagzi, qui nous reste une petite minute. Voilà, quel serait le message à passer à tous ceux qui nous écoutent, aussi bien des hommes, aussi bien des femmes, voilà, pour gérer l'après, en fait, finalement, et en tout cas se relancer.
Mais c'est important de se recentrer sur soi, d'apprendre à gérer ses émotions, d'apprendre à gérer ce qu'on peut penser de soi-même, l'estime de soi, et je donne beaucoup d'outils dans mon ouvrage, pour finalement être assez serein dans une relation, même si ça tourne mal, on peut jamais savoir. Donc c'est important de rester dans l'expérience et ne pas subir.
Et voilà, prendre ça comme une expérience et ça peut décider aussi de la suite. Merci en tout cas beaucoup pour vos éclairages. Je recommande l'ouvrage de votre livre « Cœur brisé et relations amoureuses tourmentées » avec en bande rouge « L'art d'aimer sans souffrir ». Si on peut y arriver, c'est peut-être mieux. Et c'est aux éditions Odile Jacob. Merci. Dans un quelques instants, un tout autre sujet. On va parler de la campagne de vaccination contre le chikungunya à La Réunion et à Mayotte. On sera avec Anne-Claude Crémieux, c'est la présidente de la commission technique des vaccinations, la haute autorité de santé. C'est après le chanteur de reggae français, Tiwoni, avec Énergie sur RFI.
Dites-là que l'énergie est positive, elle est constructive.
Tu serves les signes et les merveilles. Cette petite voix qui parle dans ton sommeil. Ce soleil qui t'illumine au réveil. Le chant des oiseaux dans le ciel. Et cette couleur de l'arc-en-ciel qui nous rappelle notre alliance éternelle. Partage.
Energy, la bonne
Energy.
Pour ton corps et pour ton mental.
Energy.
Pour ton bien-être, c'est vital.
Energy.
Mon vase est bon, la coupe est pleine.
Energy.
Peu importe ta couleur, peu importe ta classe.
Energy.
Pour fortifier et rassembler les masses.
Energy.
Il n'y a pas de cure plus efficace.
Energy.
Distribution gratuite pour la peau. Mais cette énergie, cette force qui nous accompagne et nous régit. Ensemble créons cette synergie. Impossible de rester en léthargie. Babylone nous donne des allergies. Mais on reste focus et on agit. On réagit, on s'agit. Toujours en vie, connecté sur la good frequency.
Naturel mystique dans l'atmosphère. Les éléments, le cosmos, l'univers. Chaque saison, printemps, été, automne, hiver. Comme une bouffée d'oxygène, a breath of fresh air.
Energy.
Allez, venons ensemble partager la bonne
énergie.
Pour ton corps et pour ton mental.
Energy.
Pour ton bien-être, c'est vital.
Energy.
Mon vase est bon, la coupe est pleine.
Energy.
Peu importe ta couleur, peu importe ta classe.
Energy.
Pour fortifier et rassembler les masses.
Energy.
Il n'y a pas de cure plus efficace.
Energy.
Distribution gratuite pour la populace.
Serve les signes et les merveilles.
Cette petite voix qui parle dans ton sommeil.
Ce soleil qui t'illumine au réveil. Le chant des oiseaux dans le ciel. Cette couleur de l'arc-en-ciel. Qui nous rappelle notre alliance éternelle. Avec le Dieu de la terre, le Dieu du ciel. Il est le fournisseur officiel.
Venons ensemble partager la bonne
énergie.
Pour ton corps et pour ton mental.
Energy.
Pour ton bien-être, c'est vital.
Energy.
Mon vase est bon, la coupe est pleine.
Energy.
Le chanteur de reggae français Tewani avec Energy, un titre à retrouver sur la playlist de RFI. Nous allons parler maintenant dans Priorité Santé de la campagne de vaccination contre le chikungunya à La Réunion et à Mayotte. Bonjour Anne-Claude Crémieux.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de maladies infectieuses et président de la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé. On parle en ce moment de flambée épidémique de cette maladie. Est-ce que de votre côté, vous avez vraiment des chiffres et à La Réunion et à Mayotte ?
Oui. Donc, en ce qui concerne la Réunion, effectivement, il y a une accélération de l'épidémie. On a eu, dans la première semaine du mois de mars, environ 3000 cas, ce qui est beaucoup plus, à peu près 30 à 40% par rapport à la semaine d'avant. Heureusement, l'impact sanitaire reste assez modéré. Les hospitalisations sont de moins de 100 personnes et ça touche, comme on pouvait s'y attendre, essentiellement les personnes de plus de 60 ans, voire 70 ans, qui sont les personnes à risque de faire des formes sévères.
Ouais, c'est pour ça que la campagne de vaccination s'adresse en priorité à cette population, hein.
Tout à fait. Ouais. L'idée, c'est de justement diminuer ce risque de forme sévère et on sait que c'est essentiellement les plus de 65 ans. C'est aussi les plus de 65 ans qui font les formes chroniques, vous savez, ces arthrites, ces atteintes des articulations chroniques et qui sont très invalidantes, que malheureusement beaucoup de Réunionnais ont connu en 2006. Ouais. C'est pareil, ce sont les plus de 65 ans, avec souvent une comorbidité.
Ah, on vous a perdu, Anne-Claude Crémieux. Oui. Vous êtes là ?
Oui, oui.
Allô ? Oui, tout à fait, on vous avait perdu un petit peu. Vous parliez des comorbidités, forcément.
Oui, les comorbidités, donc les personnes de plus de 65 ans avec une comorbidité, je voulais parler de l'hypertension artérielle, du diabète qui est assez fréquent, ou des problèmes de reins, de cœur, ce sont les personnes qui vont être vaccinées en priorité, celles qui ont plus de 65 ans avec une comorbidité, cela à partir du 1er avril.
D'accord. Alors on sait que ce vaccin est assez récent, est-ce qu'on a encore suffisamment de recul d'ailleurs sur son efficacité ? Il protège combien de temps ? Est-ce qu'il y a des effets secondaires indésirables ? Est-ce que vous en savez plus ?
Alors, ce qu'on sait, c'est que il y a une très bonne réponse en termes d'anticorps qui vont protéger contre la maladie, puisque cette réponse se voit chez plus de 98% des personnes. Et vous avez raison, c'est un vaccin récent. Mmh. Et nous n'avons pas de données précises sur ce qu'on appelle l'efficacité en vie réelle, c'est-à-dire en réalité le nombre de personnes qui vont être réellement protégées de la maladie, mais évidemment, ces taux d'anticorps protecteurs sont de très bonnes augures. En ce qui concerne la tolérance, il faut, je crois, prévenir les personnes qui vont se faire vacciner qu'il peut y avoir une réaction de type fièvre, myalgie, mal de tête, qui est assez fréquente, hein, qui touche environ 40% des patients. Donc, il ne faut pas s'étonner, enfin, des personnes qui vont se faire vacciner, il ne faut pas s'étonner. Et c'est peu durable, comme tous les nouveaux vaccins. On va évidemment suivre très attentivement à la fois l'efficacité sur le terrain, mais bien sûr ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire les effets inattendus ou indésirables qui pourraient survenir. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement pour tous les vaccins. Et bien évidemment, ça sera mis en place avec cette campagne.
Ouais, Anne-Claure Crémieux, autre message important quand même à faire passer, hein. Vous le dites, la vaccination, ça n'empêche pas de se protéger des piqûres de moustiques, hein, les fameux moustiques tigres, hein, puisqu'il faut rappeler que c'est une maladie infectieuse dont le virus est transmis par la piqûre de ces moustiques. Donc il faut se protéger malgré tout. Hein.
Oui, vous avez totalement raison. Le vaccin, son objectif, c'est de ne pas faire de forme sévère ou ne pas faire de forme chronique, mais ça ne protège pas contre la transmission dans la population. Et donc, vraiment, les mesures que vous avez décliné, hein, les mesures pour se protéger des moustiques restent une priorité pour essayer de freiner cette épidémie, bien sûr.
Voilà, les répulsifs, les vêtements longs, les moustiquaires. En tout cas, merci beaucoup pour vos lumières, Anne-Claure Crémieux. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeure de maladies infectieuses et présidente de la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé. Priorité santé, c'est terminé. Merci à toute l'équipe. Victor Hull, Ophélie Lassen, Louis Caleda, Kelza, Ella David et Thibault Matin. Demain, à la même heure, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, on va parler prévention face à toutes les affections qui peuvent toucher forcément les dents, les gencives ou la langue. Comment les éviter? À quelle fréquence faut-il se brosser les dents? Quels aliments à éviter? On attend bien sûr toutes vos questions au 33 1 84 22 75 75. Dans 10 minutes, priorité santé. On se retrouve demain et ce sera Emmanuel Bastide.
C'était Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.